à Marcel Violette, qui a déjà pris la parole ce matin, mais qui, je n'en doute pas, a des choses à nous dire cet après-midi. Donc je ne le présente pas, il est marionnettiste, scénographe. On a vu son lien avec la compagnie Oudard Klein, et son activité est très riche. Qu'est-ce que vous inspire ce parcours dans les musées, dans la restauration, dans les matériaux des marionnettes restitués, préservés pour les siècles des siècles?
Je voudrais évoquer un souvenir, puisque c'est dans mon âge maintenant. À l'époque, Daniel Girard s'occupait de la culture à Pontoise, et nous avons monté la première exposition de marionnettes itinérantes à partir de notre collection à ce moment-là. Et la conservatrice du musée Tavet, qui nous avait pris en amitié, nous dit: venez voir, je vais vous montrer des choses extraordinaires. Et elle nous emmène dans une petite réserve. Elle ouvre un placard en chêne, de ces gros placards qu'on trouvait autrefois dans les musées, et elle sort un maxillaire inférieur et un tibia momifié. Elle dit: vous savez pas ce que c'est, ça? Et bien ça, c'est la mâchoire d'Henri IV, et ça, c'est le tibia de Catherine de Médicis. Et bien voilà. Il y avait donc les restes de Catherine de Médicis et de... qui était là, qu'un royaliste avait récupéré ça quand les tombeaux avaient été éventrés à la Révolution. Alors je sais pas ce que c'est devenu, c'est peut-être retourné à Saint-Denis, je ne sais pas. Enfin, c'était assez marrant. Alors tout ça pour vous dire que ça fait un petit moment maintenant que je tournais, surtout j'en fais moins d'expositions de marionnettes, et que la question que je me posais, c'est: est-ce que c'est pas franchement une ânerie que de faire une exposition de marionnettes et d'exposer des marionnettes? Car en fait, la marionnette est faite pour vivre, pour être animée, pour raconter une histoire ou émouvoir. Ce qui m'a amené à une obligation, c'est qu'à chaque fois que je montais une exposition de marionnettes dans un lieu, j'exigeais qu'il y ait un spectacle vivant, au moins un spectacle vivant, pour qu'on voit un aspect de ce qu'étaient ces petits machins qui sont pendus. D'ailleurs, il y a deux marionnettes qui sont suspendues là. On peut avoir des renseignements sur ces deux bestioles, Monsieur Meschke?
Je les ai apportées du musée de Stockholm pour montrer des différentes manières de traiter les marionnettes. Justement, celle-ci, à mon avis,
je l'ai trouvée chez un grand fabricant de marionnettes en Birmanie. Il faut la tenir contre un fond blanc pour que vous puissiez comprendre. Alors ça, c'était dans un corbeille à jeter. Et je l'ai pris dans mes mains, je me suis dit: ah, ça c'est une sculpture moderne, contemporaine, il faut l'acheter telle qu'elle est. Et ils n'ont même pas voulu de l'argent, tellement elle est considérée bête et brute, moche. Et pourtant, elle a non seulement une forme qui est belle et que le public ne voit jamais.
Elle a surtout les deux caractéristiques qui vous font distinguer la qualité dans les marionnettes birmaniennes. L'une est que les yeux doivent être de verre et non pas peints, pour refléter la lumière sur la scène, et l'autre, que la marionnette doit être fournie d'un sexe bien sculpté. Alors j'ai demandé: mais pourquoi, nom de Dieu, créer un sexe sur une marionnette que personne ne voit jamais? Parce que, comme vous voyez là-bas, l'autre, elles sont toutes habillées de costumes somptueuses. Et alors, ils m'ont expliqué que le sexe, c'est parce que la marionnette est faite à l'image de l'homme. L'homme est fait à l'image des dieux. Les dieux sont complets, il ne manque rien. Donc à la marionnette aussi. Et l'autre marionnette, c'est pour montrer comment on peut... Ça, c'est une marionnette nouvelle. Et j'avais l'intention d'en parler après, mais vous commencez à en parler de ce sujet. Il ne faut pas oublier, dans tous ces discours fantastiques aujourd'hui, que la marionnette est un objet de consommation. qui est fait pour jouer et pour se casser, pour peut-être perdre dans une bataille la moitié de son visage, et qu'on refait après. Alors ça, c'est une de ces marionnettes qui sont utilisées aujourd'hui par des marionnettistes vivants en Birmanie et qui la rangent au plus beau chaque fois, après chaque spectacle. Merci.
Quelquefois, quand on veut conserver des marionnettes, on a quelques mésaventures. Il ne s'agit pas, pour mon cas personnel, d'une marionnette, mais d'un masque de Mélanésie qui commençait à être bouffé par les bestioles. Donc c'est toujours inquiétant quand on veut conserver des objets de voir qu'il y a de la poudre, il y a des trous, et on ne sait pas très bien qui habite le masque en l'occasion. Alors que faire ? Eh bien, c'est de traiter avec un fongicide, un insecticide. Donc j'ai pris les produits du commerce et j'ai joyeusement badigeonné tout le masque. Et puis, malencontreusement, tout ce qui était peint en kaolin a disparu. Bon. Alors là, on a un goitre bilatéral qui pousse et on se pose des questions. Alors, heureusement, le produit s'est évaporé. Il y a longtemps que j'avais fait cette bêtise. Et le kaolin est réapparu. Donc, ouf. Voilà. Je profite de ce qu'il y a, madame du musée Gadingue, pour poser une question. La donation Léopold d'or avait été, à ma connaissance, partagée entre le musée Gadingue et puis le musée des ATP. Quid du musée des ATP, qu'est devenue la collection Léopold d'or et la collection plus particulière, enfin plus généralement, du musée des ATP? Mais vous ne savez peut-être pas.
Alors... Heureusement, je ne suis pas conservateur du musée des ATP, qui devient, comme vous le savez, le MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Pour ce qui concerne la collection donc Léopold d'or, la plus grande partie a intégré le musée Gadagne, comme je le disais tout à l'heure, puisque c'était une des conditions mises par Léopold d'or. Pour le reste, je sais qu'il est prévu au MUCEM d'intégrer bien sûr les marionnettes dans cette problématique des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Je vois pas comment on peut faire autrement d'ailleurs, mais vous dire où on en est aujourd'hui précisément, ça m'est complètement impossible, bien sûr.
Alors tout à l'heure on a parlé de, je continue à agacer un peu, de la collection Kwakon. Alors c'est un mythe ça. Kwakon, qui était un richissime coréen, a collectionné toute sa vie des masques, des costumes de théâtre, des marionnettes, des instruments de musique, une collection absolument fabuleuse, dont il a fait la donation à la France, à ma connaissance. Or, on ne sait plus du tout ce qu'est devenue cette collection Kwakon. Elle est au Portugal, paraît-il.
Alors, peut-être donner la parole à Cécile Gitto, puisque la collection Kwakon a été déposée pendant un certain temps
au Pimpano,
national,
oui.
Voilà.
Avec Monsieur Pimpano.
Et,
oui.
Et après, elle est malheureusement repartie.
Oui, la collection Kwakon a été déposée à la Bibliothèque nationale. Grâce à l'assistance d'André Lampstein, je veux dire, des participants. Parce que à ce moment-là, Jacques Mapano, qui...
C'est meilleur que ça. Jacques Pimpano, qui gérait cette collection, cherchait un local pour pouvoir abriter la collection. Donc, ce qui était déjà le futur département des arts du spectacle, j'ai pu dire, s'intéressait obligatoirement à cette collection. Et Jacques Pimpano a été séduit par l'affaire. Il se trouvait que l'administrateur de la Bibliothèque nationale, qui était à l'époque, a dit « il ne faut pas laisser passer cette chose ». Et par conséquent, un contrat a été signé. Nous avons pendant 20 ans entretenu la collection Kwakon, fait des acquisitions. Ensuite, nous n'avions pas encore de locaux suffisants et il fallait que ce soit exposé. Il y a eu des rapports avec le musée Galliera. Il y a eu un espoir avec le musée... Le musée Guimet. On a cru à un moment que les choses... Puisque si la Bibliothèque nationale ne pouvait pas l'exposer de façon continue, je dirais quand même qu'en 79, il y a eu dans la galerie Mazarine, une énorme exposition qui a été très appréciée du public et où pratiquement tous les pays de l'Asie du Sud-Est étaient représentés. Il y a eu un catalogue, etc. Bon. Mais nous ne pouvions pas, nous n'avions pas les salles pour exposer de façon permanente. L'administrateur de l'époque avait admis que l'exposition, que la galerie Mazarine reste éventuellement consacrée pendant plusieurs années à cette exposition. Mais il y a eu des... Tout le monde n'était pas d'accord. Alors c'est ainsi que pendant 20 ans nous avons essayé d'entretenir cette collection qui cependant a été exposée dans différents bâtiments, certains relevant de la municipalité de Paris. La dernière tentative ayant été au musée Guimet, mais la France n'a pas donné suite et par conséquent la collection est partie au Portugal. Nous le regrettons sincèrement.
Merci.
Alors je dois dire qu'il y a quand même des restes, puisque comme nous avons gardé une partie des expositions, une partie des acquisitions, par exemple les ombres de Chine que vous avez vues ont été acquises à cette moment. Nous avons acquis à ce moment pas mal de documents pour Quacon et nous en avons gardé une partie puisque la comptabilité publique le voulait. Voilà. Voilà. Alors nous regrettons, mais donc il y a c'est visible maintenant à Lisbonne.
Ah. Il y a quelque chose.
Je crois dans le musée d'Orient. C'est un gros musée tout nouveau et cette collection s'y trouve.
Alors peut-être il est 4 heures. Si vous voulez ajouter quelque chose, je vous en prie.
Non, en ce qui concerne la conservation, j'essaie d'appliquer à moi-même un certain nombre de principes et vous voyez que c'est très difficile, très compliqué.
Vous le dites. Écoutez, merci vraiment à vous.